Automne 2021, dans un refuge de montagne, après une journée de marche. Je partage une fondue savoyarde avec des randonneurs autour d'une grande table en chêne. Par chance, quelques-uns ont sorti leur instrument et emplissent l'espace de sons irlandais. La gaieté est au rendez-vous, après une ascension agréable, mais fatigante. Sur le moment, je m'attends à continuer le partage, à vivre avec ces gens ce moment unique et furtif que représente un coucher de soleil.
Génial! Ça faisait longtemps, hein?
Ah, bah ils répondent pas, je leur envoie des...
Lorsque l'un d'eux sort son portable de sa poche, suivi par tous les autres. Déçu par la triste tournure que prend cette soirée festive et joviale, je m'éloigne du groupe pour admirer le coucher de soleil et apprécier le silence des montagnes. Je m'approche du seul randonneur qui n'a pas sorti son portable et qui admire le paysage.
Bah alors, vous n'envoyez pas des beaux selfies de vous avec le coucher de soleil derrière vous ?
Bah,
vous n'êtes pas très connecté, hein ?
Écoutez, moi, je préfère admirer les paysages comme ça, tranquillement.
Bah, vous n'êtes pas très branchouille quand même. Regardez, ils sont tous branchouilles, là.
Le problème, c'est que plus on est branché, moins on est là. Et moi, je préfère être là que de raconter à d'autres que j'étais là.
C'est vrai. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à une aquarelle de Samivel. Une aquarelle où on voit un montagnard qui est assis au milieu d'un cirque de montagne. C'est la nuit, il est seul avec la lune. C'est un peu comme si la montagne et la lune avaient décidé de lui offrir un cadeau. Alors évidemment, il a envie de partager ce beau moment avec quelqu'un. Et il y a une bulle où il y a écrit « ça serait tellement plus beau à deux ». Moi, je trouve ça normal de vouloir partager un coucher de soleil, mais le faire avec un portable, vraiment. Je trouve ça bizarre. Et pourtant, j'arrive pas à expliquer pourquoi je trouve ça bizarre.
Moi, vous voyez, je trouve un tout petit peu dommage de s'absenter de la situation pour essayer de communiquer à l'autre. À vrai dire, il y a un truc un peu tordu là-dedans. C'est comme si l'autre, en le voyant, il certifiait que c'est vrai ce que je vois. Vous voyez, c'est comme si je ne pouvais pas me souffrir à moi-même d'être là, dans un moment éphémère, dans lequel tout ce qui doit rester comme dans une trace. Dans moi. C'est au cœur de l'éphémère que niche l'irréversible. Alors, s'il y a quelque chose d'irréversible qui s'est passé à ce moment-là, il va rester en moi. Si moi je me presse pour faire partager l'image plate du coucher de soleil, tout est perdu.
Vous avez l'air d'avoir une bonne analyse du sujet. Vous devriez écrire des bouquins.
Ah bah justement, c'est une des choses que j'ai fait dans ma vie. J'écris des bouquins, oui. Je m'appelle Miguel Benassayac, je suis philosophe et chercheur, mais pour gagner mes raviolis, je continue à faire de la clinique.
Moi, c'est Jean-Baptiste.
Enchanté.
Enchanté.
Parfois, un instant précis, pour la montre, contient une sorte d'éternité. Le temps, il n'est pas simplement linéaire. Une minute, une seconde, une seconde, une seconde. Il y a aussi une profondeur du temps. Quand on est dans le temps de la montre, on loupe la profondeur du temps. Par exemple, quand je me laisse aller à être là dans un coucher de soleil, à participer du coucher de soleil, il y a là quelque chose d'éphémère, certes, mais irréversible. C'est-à-dire qu'il y aurait eu lieu quelque chose. Si moi je sors mon cacaphone et je me mets à photographier et je l'envoie à ma tante de Viche tout de suite la photo, eh bien, c'est sûr que ces côtés profondeurs dans lesquels je dois me fondre dans les paysages pour y participer sera perdu.
Vous les voyez tous, là ? Ils sont tous les yeux rivés sur leur portable, alors qu'il y a un super coucher de soleil. Effectivement, ils ratent quelque chose. En tout cas, ils ratent une dimension.
Et plusieurs, oui. Regardez même celui-là, là, en train de râler parce qu'il appelle et on ne lui répond pas tout de suite. Vous voyez ? Il veut que ce soit tout de suite, tout de suite.
C'est vrai. Mais quelque part, moi, je ne vaux pas mieux. Hein.
Pourquoi vous dites ça?
En fait, j'ai repris contact avec des amis que j'avais pas vus depuis 30 ans, un ami chanteur en Angleterre. Et quand je lui envoie un message, c'est vrai qu'il me répond une fois sur trois. Une amie aussi que j'ai retrouvée par hasard sur le net. Alors on a prévu de se revoir en Cornouailles, là où elle habite. Mais quand je lui envoie un message sur WhatsApp, ben, elle répond quasiment jamais. Ou alors elle répond une semaine après. Et encore, hein, avec des phrases un peu superficielles. Des fois, je me demande si elle a vraiment envie que j'aille la revoir.
Oui, mais justement, vous voyez, demander « tu es toujours vivante ?» Envoie-moi un SMS pour me dire que tu es vivant. Ça donne quoi comme information? Ça donne quoi comme contact? Savoir que l'autre, il est juste vivant. C'est comme si on était là en train de se surveiller les uns aux autres, voir si on est là, si on n'est pas là.
Et alors, je ne la surveille pas.
Mais ça fait un effet de surveillance. Ça fait comme juste « envoie-moi un signal que tu es là ». Mais ça ne fait pas être avec l'autre. On ne se renseigne pas si l'autre veut nous accueillir ou pas. Parce qu'accueillir quelqu'un, vouloir s'approcher à quelqu'un d'autre, ça demande une certaine prudence, une certaine timidité. C'est-à-dire, ce n'est pas évident, vous voyez.
Qui ne transparaît pas à travers un SMS.
Absolument. Vous vous êtes approché de moi pour parler. Vous n'avez pas agi comme un coup de poing d'SMS. Vous vous êtes approché délicatement, en mesurant parce qu'il y a un espace physique autour duquel c'est encore nous. Vous voyez, ça arrive dans les métros. Quand on est dans les métros à 18h, on se rend compte que celui qui est collé à nous, à vrai dire, il est dans notre espace physique. Alors c'est pour ça qu'on ferme les yeux, on regarde en haut parce qu'on doit supporter ça. On doit supporter cette sorte de promiscuité qui vraiment nous fait mal. Alors, quand on s'approche comme ça, on s'approche éthologiquement, non, comme la psychologie animale. Parce qu'on sait quand même qu'il y a l'autre, et l'autre a un espace autour de lui qu'il faut approcher délicatement, il faut faire des petits gestes pour voir si l'autre nous invite à entrer dans son espace. L'SMS, c'est comme une agression envers l'autre. Je t'appelle, tu réponds, tu réponds pas. Moi, je vois, par exemple, comment les gens, quand ils connaissent quelqu'un, dans les mécanismes, les situations de séduction, par exemple, tout est perverti. Parce que si l'autre ne me répond pas vite fait, qu'est-ce que ça signifie? Alors, tout est perdu de la séduction, de l'amitié, de l'approche, parce qu'il est perdu le temps de l'approche.
Bah, alors c'est exactement le principe des applications de rencontres là, comme Tinder ou je ne sais plus quoi.
Tinder et je ne sais pas quoi, comme vous dites, sont tout à fait comme ça. C'est-à-dire, ce sont des mécanismes pour éviter la rencontre. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, c'est se consommer. Non ? Tu es consommable, je suis consommable, regardez comment je suis consommable. Celle-là ou celui-là n'est pas consommable, n'est-ce pas? Et combien tu consommes? Et quand on est en train de consommer un, on dit, merde, je suis en train de perdre mon temps, je pourrais consommer quelqu'un d'autre. Tous ces dispositifs-là, ces applications-là, sont faits pour éviter que les gens se rencontrent. On ne peut pas se rencontrer comme ça, d'un isolé à un isolé. Il faut tout un tissu. Et ce tissu prend du temps, c'est une construction.
Mais quand même, les réseaux sociaux, ils ont quand même leur avantage. Même si moi, je ne me sens vraiment pas à l'aise dans les réseaux sociaux, j'ai quand même retrouvé des amis d'il y a 30 ans grâce à ça, finalement.
Personnellement, je trouve quand même que si je me demande qu'est-ce qui devient ma première fiancée, Sarah, en Argentine, je préfère que ça me prenne du temps, que je dois écrire à Bernardo, que je sais qu'il avait vu quelque temps, qu'il écrit à quelqu'un d'autre, et que tout à coup, comme ça, en rebondissant d'un côté à l'autre, quelque chose arrive à Sarah qui lui dit « Apparemment, Miguel te cherche. »
Il y a de la magie, quoi.
Il y a de la magie. Quand il y a une rencontre, il y a de la magie. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ça et Sarah n'a pas voulu me répondre. Mais moi, je ne l'ai pas agressée. Je l'ai fait savoir que 40 ans plus tard, elle continue à exister pour moi et que je pense à elle. Il n'est pas arrivé le coup de poing « tu es là, je suis là ». Tout ce temps-là où je la cherchais, elle était encore avec moi. Ces liens-là existaient sous ces formes-là. Son refus de me répondre fait partie de ça, non? Alors, c'est quand même des dimensions d'une délicatesse, d'une fragilité comme ça de l'existence qui se perd au nom d'une efficacité qui, en plus, et surtout, loupe la cible. Est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on continue à dire des choses vraies dedans? Parce que là, il fait un peu fresqué. Hein?
L'air de la montagne, ça pardonne pas le soir. En plus, à l'intérieur, ils ont mis du jazz super cool. C'est quoi, c'est la radio?
Ah oui, je crois, oui. La radio, ça, c'est avantage. Il n'y a pas d'image.
Je suis d'accord. Un bon feu de bois, du jazz en fond sonore, une odeur de fondue savoyarde. Hein. Que demander de plus?
Je vous disais que ceci ressemble à une sorte de présence particulière qui est une présence communicationnelle. Une présence un peu loupée, pour le dire comme ça.
Ouais.
C'est comme une présence d'office, quoi. C'est-à-dire, je suis là, je me manifeste à travers un SMS, à travers une photo, mais ce n'est pas l'épaisseur de la situation. On n'est pas là, tous les deux. Vous savez, la présence des corps est toujours inquiétante.
Pourquoi inquiétante?
Inquiétante pas dans le mauvais sens. Inquiétante dans le sens que ça stimule, ça convoque, ça interroge, n'est-ce pas?
Ah oui.
Et les corps, c'est du vivant non transparent. Contrairement à cette présence communicationnelle dans laquelle tout semble être dit.
Alors c'est comme s'il y avait la présence communicationnelle contre la présence situationnelle, présence qui prend en compte la situation.
La présence dans la situation, c'est-à-dire qu'on se rend présent à la situation. Comme ce qu'on disait dehors par rapport au coucher du soleil,
sur la terrasse,
se rendre présent à cette situation-là exige qu'on soit là, qu'on soit en fusion avec la situation.
Là, en l'occurrence, dehors, ils sont pas du tout en fusion avec le coucher de soleil. Ils sont tous sur leur portable.
Non, ils sont tous en train de mettre entre eux et la situation, la machine, pour éviter l'angoisse de la présence. La présence a un certain niveau d'angoisse. L'angoisse, ce n'est pas toujours négatif.
Négatif, oui.
C'est-à-dire, il y a une angoisse existentielle. Mmh. Et alors, le portable permet comme ça de se protéger, mais en pure perte. Vous voyez, quelqu'un me racontait que les jours où... Attendez.
Oui.
Vous pouvez augmenter le volume de la radio, s'il vous plaît?
Oui.
Didier Lockwood, virtuose du violon, s'est éteint hier soir à l'âge de 62 ans, terrassé par une crise cardiaque.
Eh bien, encore un grand qui s'en va.
On ne peut pas parler uniquement du son. Et je pense qu'aujourd'hui, on souffre d'une panne d'essence.
Eh oui.
À tous les niveaux, je dois dire que au niveau de la manière de se nourrir, par exemple, on est dans ce qu'on appelle la malbouffe. Et je pense qu'aujourd'hui, pour le son, pour la musique, on est un peu aussi, parfois, et comment on la diffuse, et comment on se sert du son, on est un peu dans une malbouffe aussi.
Eh oui.
Je crois qu'il y a...
Des malsons.
On connaît la même chose aussi pour le toucher. Aujourd'hui, on ne touche plus pratiquement que nos écrans tactiles. Et on a le bout du monde à portée de la main.
Oui, sauf
Et quand on se rencontre dans la rue, on ne se sert plus.
Absolument.
Plus la main. Chacun est isolé avec son smartphone, avec le son.
Comme des autistes.
La vue.
C'est clair.
Et le toucher. Donc je crois qu'aujourd'hui, je sens ça comme une tentative de nous ôter nos sens.
Absolument.
Et ce qu'ils ont de plus important au monde, c'est-à-dire Absolument. La relation au monde
c'est
et la relation
sujet.
Entre chacun d'entre nous.
C'est tout à fait dans le sujet.
Des êtres uniques et de qui chacun doit apprendre les uns des autres. Et on l'apprend en se parlant, en communiquant, en se touchant, en vibrant ensemble. Donc je pense que tout ça tient à une écologie. Une écologie, oui, il y a une écologie du son, il y a une écologie de la nature. Aujourd'hui, on ne voit plus, on n'entend plus, on ne touche plus, on ne goûte plus.
Eh oui.
En tout cas, on ne goûte pas comme on devrait goûter. Donc, je pense que cette action qui est menée depuis pas mal de temps déjà par M. Huguenet est essentielle. parce qu'elle va nous permettre de rentrer plus profondément, peut-être, à nouveau dans les choses. Et le monde est tellement merveilleux.
Oui, il faut renouer avec la vie.
On nous le banalise.
Ben oui.
On nous le compresse.
Oui, oui.
On nous compresse notre regard, on nous compresse tous ses sens.
Il nous compresse la vie, quoi.
La dynamique est absente de...
Il l'exprime bien aussi, ça.
Oui.
Et en tout cas, je sais que pour moi, la musique, c'est mon grand moyen de communication. Et j'improvise, c'est mon grand moyen de communication. C'est-à-dire traiter du moment présent.
Et oui, l'improvisation, c'est ça. C'est les moments présents.
J'espère que, on va se réunir tous pour essayer d'échapper un peu à ce rouleau compresseur que les dérives de notre société est en train de provoquer au niveau de l'humanité.
Ouais,
et on en voit les premiers résultats. Mais ça fait très plaisir de pouvoir vous voir si nombreux et de voir qu'autant de pays prennent conscience, puisque en fait, ce n'est qu'une question de conscience. Alors, le combat continue et je crois que c'est le combat simple.
Oui. Il est très optimiste, parce que je ne sais pas vraiment s'il y a tellement une prise de conscience. Vous savez, tous ces appareils, tout ce monde communicationnel, il est tellement ludique, tellement séduisant, que les gens se laissent capturer entièrement. C'est-à-dire, c'est vraiment une mauvaise rencontre de l'humanité avec ces machines.
Oui.
Je ne nie pas l'utilité qu'il peut avoir. C'est-à-dire, effectivement, vous savez, pour les pompiers, imaginez-vous, pour les médecins urgentistes.
Ah ben ça on ne peut pas le nier. Ça, c'est,
bien entendu.
C'est utile.
Il ne s'agit pas d'être technophobe, mais il s'agit de voir que cette technologie a colonisé les vivants et que nous, on est fascinés. On se laisse coloniser joyeusement, quoi. Et
oui.
Ce qu'il vient de dire, effectivement, c'est ça, c'est-à-dire ce monde de plus en plus unidimensionnel, dans lequel on évite les paysages, on évite les contextes.
On évite toutes les autres dimensions,
oui.
En fait.
Oui,
c'est ça.
Cette horreur du transhumanisme véhicule dès que la vie soit une vie sans corps.
Oui.
Parce que le corps fout le bordel, pour dire comme
ça. Oui.
C'est-à-dire le corps, la vie ne peut pas être discipliné.
Et puis c'est imparfait.
C'est imparfait.
Puisque c'est éphémère.
Absolument. C'est imparfait. Vous savez, la grosse différence entre la vie artificielle, ce qu'on appelle la vie artificielle,
oui.
Et la vie biologique, c'est que la vie biologique, merde, à un moment donné,
oui.
Ça faille. Mais ces failles-là...
Ça fait partie de la vie.
Voilà, ce n'est pas un dysfonctionnement.
Non.
Un artefact dysfonctionne. Nous, de temps en temps, malgré toute la logique, malgré qu'on savait qu'il fallait faire ci et ça... Bah, on fait autrement. Bah, c'est ça qui fait l'épaisseur de la vie.
C'est l'imperfection qui fait la perfection.
Absolument, absolument.
Pour comprendre Rémy Gouël, il faut que je fasse un effort de concentration que je n'avais pas eu à faire avec Mathieu Ricard. Mais au fur et à mesure que Miguel met des mots sur l'origine des sentiments que j'éprouve, je réalise à quel point il est important d'être précis dans les mots, dans les structures de phrases. C'est grâce à cette maîtrise du langage que l'on est fort, car on sait tout de suite déjouer les manipulations de ceux qui veulent nous aliéner en nous vendant leur cacophone, comme le dit si justement Miguel.